Bonjour à tous et bienvenue dans La Clé des Champs, votre nouveau rendez-vous bimestriel pour plonger au cœur de la culture sur Onis Sud. Aujourd'hui, on vous a concocté une émission pleine de découvertes et de belles rencontres. On débutera cette émission avec Julie, qui a eu le plaisir de rencontrer Blandine Giambiasi, une autrice passionnée qui puise son inspiration dans les paysages qui l'entourent. Elle nous parlera de son livre, Le goût d'un fleuve, et de son lien intime avec la nature et les rencontres et comment ils influencent son écriture. Puis Renaud vous fera revivre un événement marquant avec notre micro-trottoir sur le Festival des Écritures. Une petite immersion parfaite pour vous donner envie de ne pas rater la prochaine édition. Et ce n'est pas tout, on vous emmène en zoom sur le cinéma Le Palace pour échanger avec Jérôme Vagnon, son directeur. Il nous dévoilera les coulisses de la programmation culturelle de ce lieu emblématique du territoire. Et bien sûr, on clôturera cette émission avec l'agenda des sorties culturelles à venir sur Onis Sud, avec Héloïse. De quoi vous donner de bonnes idées pour vos prochaines sorties. Restez avec nous, La Clé des Champs commence maintenant et c'est parti pour une belle balade culturelle sur Onis Sud. On commence donc cette émission avec Julie. Alors Julie, tu étais à La Rochelle pour interviewer Blandine Giambiasi.
Oui, je suis allée rencontrer Blandine et autour d'une tisane, nous avons échangé à propos de son livre. Je vous laisse écouter.
Bonjour Blandine Giambiasi.
Bonjour Julie.
Alors, tu es autrice du livre Le goût d'un fleuve, La Charente, qui est réédité par les éditions La Nage de l'Ours et qui paraîtra le 5 novembre. Et nous aurons le plaisir de t'accueillir à la salle des fêtes de Boué le samedi 23 novembre à 15h. Alors, Blandine, Le goût d'un fleuve, La Charente, c'est le résultat d'une démarche assez originale à la découverte du goût des paysages. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors c'est dans une veine d'artiste marcheur, c'est-à-dire dont l'écriture est inspirée par du vécu, des sensations, de l'immersion, des rencontres, donc dans l'esprit de l'écriture de voyage, de l'écriture nomade. Moi, ça me semble très important de faire ce travail-là quand il est question des nourritures, parce que ça me permet de faire et de tisser et d'entretenir les liens qu'il me semble il faut que l'on ait en tête quand on parle des nourritures avec leur paysage. Pourquoi ça a du sens de manger ça ici? Pourquoi cette plante pousse là? Pourquoi ça a ce goût-là quand on transforme tel ingrédient là? Qu'est-ce qu'on fait quand on mange ça? Et de relier toujours par de multiples fils les paysages et les nourritures. Donc, le récit s'inspire d'une première étape qui est la marche.
Ton livre est un livre de recettes que tu as collectées lors d'une aventure qui t'a amené de la source jusqu'à l'estuaire de la Charente. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a déclenché cette aventure et pourquoi tu as choisi la Charente ?
Alors, ce qui déclenche l'aventure, c'est la décision de partager cette inquiétude, cette vision, cette inspiration à propos de nos nourritures avec d'autres, donc de faire un livre. Parce que ce travail, je le faisais de toute façon par ailleurs, mais la décision de faire un livre, c'est de le proposer à d'autres mains, à d'autres interprétations, et ça, c'était la décision. Alors après, quel sujet pour ce premier livre ? J'ai choisi le fleuve, qui est mon fleuve. Je suis née au bord de la Charente, du côté d'Angoulême, ma mère du côté de Cognac, mon père de Rochefort-sur-Mer. Ceci dit, ce paysage un peu familier, il me semblait qu'il y avait, il avait d'autres choses à révéler. Donc la décision d'aller explorer quelque chose qui est si loin, si proche, en fait, qui est par là, mais peut-être je peux, en le parcourant à pied, en m'accordant ce temps et surtout en m'accordant la lenteur, le sentir et le relier avec l'aide de toutes les personnes que j'ai croisées sur le fleuve au sujet des nourritures, voilà. Moi, j'ai vraiment à cœur que cette culture, elle ait du sens, elle inspire nos achats, elle inspire nos comportements. et que ce livre il soit une invitation à cuisiner et à relier, toujours c'est ça le sens de mon travail, à relier les paysages et les nourritures, donc de relier les nourritures à un socle et une culture.
Oui, et d'ailleurs c'est un livre qui est à la fois un livre de description de paysages, d'ethnologie, de géographie, de géologie, de botanique, de cuisine. Tu as un multiple regard sur tout ça. Est-ce que tu es toi-même à la recherche de cette vision multiple?
J'ai envie d'essayer de cultiver cette complexité que je trouve très belle, et c'est un peu ce qui rejoint la présentation cartographique d'un voyage que j'ai faite au retour de la marche, parce que elle vient superposer des visions qu'on a peut-être trop tendance à isoler ou à considérer isolément. Cette complexité, c'est la garantie que quand on passe d'un petit endroit à un autre, d'un tout petit pays à un autre, d'une rive à l'autre, on va observer des similitudes, mais aussi des nuances. Et mon envie, c'est qu'on les conserve toutes, ces nuances, y compris que la recette du farci de telle personne soit la même, presque la même, mais pas la même que celle du voisin d'en face. Voilà. Donc c'est intéressant de garder tout ça, et cette tentative dans le livre, c'est de prendre tout ce qui vient, en étant experte d'aucune de ces disciplines, mais de se plonger dans la géologie sans exclure les sonorités, les questions de langage, les traditions, l'orientation d'un coteau, un vent dominant, de se dire que finalement, peut-être qu'on est là et que tout compte.
Pour en revenir au livre et à son écriture, au processus d'écriture, est-ce que tu as écrit en marchant? Enfin, tout simplement, comment est-ce que tu l'as écrit, ce livre? À quel moment tu l'as écrit et construit?
L'écriture, elle est longue, l'air de rien, elle est en phase successive, une sorte d'empilement, d'écriture à chaud en bougeant. Ça, c'est difficile, c'est dans des carnets, c'est dans les conditions du réel. Il fait froid, il pleut, il y a du vent, on cherche son chemin. On va d'abord prendre soin de se reposer, après avoir quand même parcouru pas mal de kilomètres, etc. Ou alors le carnet n'est pas disponible au moment où on voudrait pouvoir prendre les notes. Alors je les complète, ces notes de voyage, par des crayonnés, des schémas, des photos, beaucoup de photos qui me servent de notes visuelles, et des audios. Je m'enregistre. Quand je ne peux pas écrire, j'enregistre. Par la suite, je retourne voir les personnes rencontrées qui m'ont donné rendez-vous pour vraiment prendre le temps de les voir faire ou de les écouter raconter une recette, la confection d'un plat ou une cueillette, et écrire plutôt ça, disons comme une scène de vie, plutôt que comme une recette grammée, exacte et précise. C'est vraiment pas l'idée. Et dans un temps encore, un troisième temps, même s'il y a des étapes intermédiaires, dans cette collecte-là qui est vraiment tous horizons, qui vient faire se confronter de la géologie, des notions de langage, de toponymie, de botanique, tout ce que j'ai trouvé intéressant. Là, j'écris et je chapitre dans une résidence d'écriture qui demande pas mal de calme. J'écris au fil du voyage quand même. Donc c'est vrai que le récit et les recettes sont kilométriques, quelque part. Elles sont pas chronologiques, mais kilométriques. Elles sont accrochées au paysage traversé au fil de notre avancée. Voilà.
Avec les allers-retours, et tu as besoin de sentir, en fait, de ressentir, de faire.
Voilà, alors j'ai voulu conserver dans l'écriture, c'était très important de conserver l'inspiration des lieux et du dehors et des paysages et des sensations qui sont tout le temps là. Alors voilà, ça fait un récit qui est un peu de voyage pour une part, et une collecte de recettes et de mémoire associées aux nourritures. D'autre part, alors c'est les deux ou ni l'un ni l'autre, ou comme tu le disais, de multiples choses, c'est pas grave. J'ai envie de conserver ça. Ça fait un modèle ou un livre un peu hybride qu'un libraire ne sera pas rangé dans ses rayons habituels peut-être. Et ça fait que d'après les premiers retours que j'ai, je retrouve le livre dans des sujets qui concernent l'eau, des sujets qui concernent l'alimentation, des sujets qui concernent la gastronomie et les traditions. Au rayon aventure, au rayon voyage, au rayon patrimoine, un petit peu partout. Alors, je suis ravie.
Au tout début du livre, tu découvres à la fois la recette au chien et la recherche de cette source. Est-ce que tu peux nous lever un peu
le
mystère?
La démarche de chercher le début du début du début de cette histoire de fleuve, donc vraiment l'endroit où l'eau surgit, et puis de découvrir que c'est pas exactement en un lieu unique, ça me pose la question de savoir de quoi tiennent compte les cartographes et les géographes, de comment mesure-t-on exactement la longueur d'un fleuve, quel est le point officiel du kilomètre zéro, le point zéro du kilomètre zéro. Et dans la vraie vie, ce que je vois assez vite, c'est que la source n'est pas à l'endroit indiqué et qu'elle démarre en amont. Alors ça a été un sujet que j'ai pris comme une exploration, à chercher quelque chose qui peut paraître insignifiant. C'est un tout petit filet d'eau qui sort de terre au départ dans un champ boueux, mais de le prendre très au sérieux, parce qu'aller à la source d'un cours d'eau, d'un fleuve, d'un ruisseau, c'est toujours une démarche chouette, quoi, que j'ai répété pour d'autres situations. Et en s'accordant ce temps-là, vraiment, hein, à plusieurs reprises, en s'imprégnant des lieux et en tournant dans un sens, dans l'autre, bah, comme des vrais explorateurs, les gens ont fini par me parler, notamment de ce qui se faisait chez eux, qui était de manger le chien à Mardi Gras, pour Mardi Gras, et le chien étant un chou farci. Ah. Ouf. De m'en délivrer la recette, de m'en raconter la façon et de me dire ce qu'était réellement le chien. Donc c'est le filet qui contient ce chou. Et c'est la première recette de mon aventure qui est apparentée à un farci. De la version donc limousine, puisque là on est dans la Charente limousine. Au passage, je découvre des choses et des phénomènes incroyables auxquels j'accorde le plus grand sérieux. Un phénomène, on en parle, où on donne rendez-vous en novembre.
On va garder le mystère un peu.
Ouais, on va garder le mystère, mais il y a vraiment des choses incroyables qui se sont passées dans cette zone-là des sources.
Ton livre a reçu le prix de l'Académie de la Saintonge très récemment. Comment est-ce que tu as vécu ça?
Bon, la reconnaissance évidemment, mais la surprise aussi, parce que j'arrive toute petite avec mon livre sur un sujet cerné géographiquement, etc. Et alors un honneur, parce que Odette Commandon en a été la directrice. C'est une académie à la fois ancestrale, mais que je trouve très ouverte sur tout ce qui fait culture, dans une diversité d'expressions. Il y avait des regards sur la vase par les travaux de Thérèse Rotureau, il y avait un chantier naval traditionnel sur l'île d'Oléron, il y avait un designer, et on était dans une diversité de la notion de culture qui m'a enchantée mais touchée aussi, et vraiment très très heureuse. Voilà, alors pour ceux qui viendront le 23 novembre, j'amènerai ma médaille.
Sur la fabrication du livre, je voulais te poser aussi une question, parce que le soin que tu as pris pour l'écriture, pour l'illustration, les cartes sont magnifiques, pour les photos, se retrouve aussi dans la qualité d'édition et de fabrication même du livre.
Ça, c'est le prolongement de la démarche. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai eu du mal à envisager que mon engagement sur ce sujet des nourritures, qui est un sujet qui nous concerne tous, de passé et d'avenir surtout, que nos choix ils sont décisifs aujourd'hui quand on achète la moindre chose que l'on mange quotidiennement. Des éléments, des nourritures les plus basiques aux plus élaborées. Je pouvais pas imaginer qu'un livre il soit pas le prolongement dans le choix des papiers, le choix de la reliure, le choix de l'endroit où il est imprimé, façonné, que tout ça soit pas dans le prolongement naturel de cette démarche. Alors je partage ça avec ses valeurs et ses engagements avec les éditions La Nage de l'Ours. C'est ce qui nous fait nous retrouver après cette expérience d'un tirage de tête, qui est une série limitée, qui le reprend avec l'essence même de la démarche, remaniée malgré tout, et profitant de leur expérience et de leur soutien, on va le réimprimer dans un format peut-être un peu plus simple, mais intégrant, j'en suis tellement ravie. La cartographie pliée dans le revers de la couverture et donc qui sera vendue avec le livre.
Merci beaucoup Blandine. On te retrouve, comme on l'a déjà dit peut-être, le 23 novembre à la salle des fêtes de Bouée à 15h.
Oui.
En attendant, vous pouvez retrouver Blandine sur son compte Instagram, Le Luxe est dans la nature, et découvrir les écrits que tu fais au fil de l'eau.
Avec plaisir, très heureuse de vous rencontrer et de continuer à échanger et encore à collecter peut-être avec vos propres mémoires, recettes, etc. Voilà. Ravie, à bientôt.
Merci Julie, on a bien noté la date de cette rencontre d'auteurs dans le cadre du programme La Science s'affuse. On enchaîne maintenant avec le Conservatoire de musique Onis-Sud, qui était au rendez-vous du Festival des Écritures à Surgères, avec le projet Un petit canon avant l'apéro, qui, je crois, a suscité pas mal d'interrogations et de curiosités des participants. Un temps fort sur lequel, Renaud, tu étais présent. Je te laisse nous en dire un peu plus.
Nous sommes samedi 12 octobre, au Café Français, il est 17h et je suis en compagnie de Véronique Amand, directrice de l'association En Avant-Première et organisatrice du Festival des Écritures.
Alors le Festival des Écritures, c'est la 11e édition et ça s'appelle ainsi parce qu'on a vraiment envie de prouver que pour toute création, qu'elle soit musicale, comme c'est l'occurrence pour le conservatoire aujourd'hui, ou qu'elle soit chorégraphique ou photographique, pour toute création, il y a une écriture qui est vraiment le lien à toutes ces réalisations.
En effet, cette année encore, le festival s'ouvre à d'autres formes d'écriture. C'est ainsi que le conservatoire a été convié pour présenter son travail. Le public présent ne savait pas forcément à quoi s'attendre pour le concert-spectacle Un petit canon avant l'apéro.
Un petit canon avant l'apéro, je crois que c'est de la musique, non ? J'espère qu'on va nous faire chanter.
Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis très curieuse.
Chanter en canon avec l'apéro. Un petit canon, c'est un petit coup à boire. Hein.
Quelques réactions à chaud à la sortie de la conférence ?
Mais très bien, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas ce que c'était canon, alors je pensais que c'était un groupe de chant qui chantait en canon. Et en fait, non, c'était de l'information ou de l'apprentissage sur la composition des différents canons. Je ne m'y attendais pas, mais effectivement, j'ai appris des choses.
J'ai très apprécié le fait qu'on fasse participer le public, la pédagogie et l'humour. J'écouterai la musique de manière plus active maintenant.
très culturel déjà, parce qu'une forme d'écriture musicale cette fois, ça nous change un peu, mais ça reste l'écriture.
Comme élève du conservatoire, d'abord je remercie Pierre de nous avoir ouvert des portes de la connaissance et de la compréhension de la musique. Et puis ben voilà, je suis très 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 contente, ça m'a ouvert des portes, voilà, c'est ça.
Ce qui est intéressant pour nous, c'est le partenariat qu'il peut y avoir avec le conservatoire. Et puis, cette dynamique joyeuse, c'est vraiment très, très bien.
Merci à toi Véronique Amand pour ton accueil. Merci également Pierre Dagoa, prof d'écriture au conservatoire, pour ce bon moment. Il était accompagné par deux élèves de sa classe, Célion à la trompette et Émile au saxophone.
Merci à toi Renaud pour ce micro-trottoir qui, c'est certain, donne envie de ne pas manquer la prochaine édition. Mais sans plus attendre, passons maintenant à notre prochaine rubrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Vagnon, directeur donc du cinéma Le Palace à Surgères, pour découvrir ensemble la riche programmation déjà en cours au Palace, mais aussi le rôle et les actions de ce lieu emblématique du territoire, qui avant d'être un cinéma est avant tout un espace multiculturel. Bonjour Jérôme.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la programmation de la saison à venir, du nombre de spectacles et peut-être aussi des différents genres de spectacles-concerts que vous programmez ?
Cette année, pour la saison 2024-2025, on accueille 16 spectacles et on a une vocation à être sur des spectacles pluridisciplinaires. Et cette année, on a mis vraiment l'accent sur le Québec, sur la francophonie, où on accueille 3 groupes du Québec. Véranda qu'on a accueilli fin septembre, Été qu'on a accueilli en décembre, et puis Étienne Fletcher qu'on accueille en janvier. Donc là, c'est voilà, on voulait mettre un petit peu l'accent sur la francophonie, mais nous avons aussi plein d'autres choses. Nous avons aussi du seul en scène. On a accueilli Laura Demange et on accueillera Reda Siddiqui. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a voulu faire un concert hors les murs, un concert de musique classique avec Lucille Boulanger.
Il me semble que c'est un partenariat qui se fera aussi avec le conservatoire.
Complètement. Donc cette année, on a aussi le plaisir de travailler avec le conservatoire sur deux moments forts qui sont un petit peu, je sais pas si on pourrait appeler ça des journées écoles ou des journées rencontres, mais Lucie Boulanger, au mois de mai, rencontrera le conservatoire, ainsi que Mr. Matt pour le blues. Donc il y aura deux propositions qui sont deux très belles propositions, musique classique et blues.
Combien de spectacles sont à destination de la jeunesse ?
Alors, cette année, la particularité, c'est qu'on a 4 spectacles. On a décidé, on a choisi 4 spectacles différents. On a à peu près, comment vous dire ça ? Il y a un public de 2500 élèves ou enfants sur la communauté de communes du Sud et on voudrait leur faire plaisir à tous. Donc on a 4 semaines de spectacles pour le cycle 2 et cycle 3. Sur la ville d'Aigrefeuille et sur la ville de Surgères. Donc ça va nous prendre un mois de spectacle. La première semaine commencera en novembre. La deuxième semaine en décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. Et janvier et mars. Et on espère accueillir 2500 élèves sur notre saison culturelle pour la jeunesse.
En parallèle de votre programmation, vous menez différentes, multiples actions, ateliers. Peux-tu nous en dire davantage ?
Faut pas oublier que le Palace a 3 activités. Donc le cinéma qui est notre principale activité. On accueille à peu près 35 000 spectateurs par an. La deuxième activité, c'est le spectacle. Pour un accueil de 2500 spectateurs. Et la troisième activité, qu'on connaît moins, mais qui est aussi essentielle que les deux précédentes, c'est l'espace multimédia, où on accueille à la fois des individus en individuel sur les ateliers, des groupes, les scolaires, et on a des projets autour de l'animation, du stop motion, autour du cinéma. Donc c'est une activité qu'on connaît beaucoup moins, mais qu'on essaie de mettre en avant parce que c'est aussi l'accessibilité au numérique pour tous.
Où peut-on trouver les différentes informations concernant votre établissement ?
Alors cette année, on a investi dans un site internet, un vrai site internet, très interactif, et qu'on peut aussi bien retrouver sur son smartphone. Et il a cette particularité, c'est que toute l'histoire du Palace se trouve sur ce site. Aussi bien pour prendre des billets sur le cinéma, pour le spectacle, les ateliers multimédia. Il raconte aussi l'histoire du Palace. Il est très interactif, donc je vous invite vraiment à aller sur ce site. C'est aussi par souci d'économie au niveau du papier, mais on y fonde beaucoup d'espoir sur ce site.
Merci beaucoup Jérôme.
Merci à vous.
Bonne continuation dans cette nouvelle entreprise. Je crois que ça fait un an que maintenant que vous êtes directeur de cet établissement.
Ça fait un an, oui. Ça fait vraiment un an. Je suis très content d'être là. Et l'avenir me semble radieux. Et ce qui serait chouette, moi, je vais lancer une petite idée, c'est que le Palace va approcher des 100 ans bientôt. Et on espère vraiment faire la fête pour les 100 ans du Palace. Merci à vous.
Merci à tous les deux pour cet échange. Et donc, on note bien que le Palace fêtera ses 100 ans et on attend d'avoir la date justement pour pouvoir célébrer ça tous ensemble. On continue maintenant et on passe maintenant la parole à Héloïse qui va nous présenter l'agenda des sorties à venir sur Onis Sud.
Bonjour, commençons l'agenda de l'automne par le programme de vos bibliothèques du réseau Onisud. Cinéma et culture scientifique sont au rendez-vous avec Images de Science. Le 14 novembre à 19h, le film La fabrique des pandémies sera projeté à Ciré d'Onis avec la présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin. Le 29 novembre, à Boué, le thème de la santé est à nouveau en avant avec la projection de Un monde d'allergiques. La santé de la planète cette fois, le 2 décembre à Genouillé, retrouvez le film Pesticide, le poison de la terre. Nous poursuivons ensuite notre agenda avec la littérature bien rythmée. Le spectacle Danse avec les livres de la compagnie de hip-hop de Rochefort Pyramide interviendra en guise de clôture du prix des lecteurs le 16 novembre à Genouillé. Avec l'approche de l'hiver, réchauffez-vous les oreilles avec le programme du Conservatoire de musique Onis Sud. Mercredi 13 novembre à 18h30 à l'église Notre-Dame de Surgères, les classes de cuivre et d'orgue du conservatoire s'associent pour vous offrir un concert à l'église Notre-Dame de Surgères. Les élèves se produiront en solo ou en ensemble dans ce magnifique lieu qui saura sublimer ses instruments. Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile par l'Orchestre d'Harmonie de Surgères se déroulera à la salle des fêtes du Tout le 23 novembre à 20h30. À cette occasion, comme chaque année, la patronne des musiciens sera mise à l'honneur dans un programme riche et varié alliant des œuvres originales pour orchestre d'harmonie à de la musique plus actuelle. Un moment à partager en famille. Il y en aura pour tous les goûts. Halloween à peine célébré, nous parlons déjà de Noël. Vendredi 6 décembre à 18h30 au Castelparc de Surgères aura lieu l'audition de Noël offerte par les élèves et professeurs du conservatoire Onis Sud. Le public pourra découvrir différents styles musicaux, fruit du travail de cette première période de l'année. Pour finir cet agenda, vous avez écouté l'autrice Blandine Giambadi. Vous pouvez la rencontrer le 23 novembre à la bibliothèque de Boué. Nous avons également reçu Jérôme Vagnon sur le Zoom, sur l'espace multiculturel Le Palace. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le tout nouveau site internet du cinéma à Surgères.
Merci Héloïse pour cet agenda et merci Jérôme d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'émission La Clé des Champs touche à sa fin. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié ce moment passé avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site de la communauté de communes onis-sud.fr et bien sûr sur les ondes d'Hélène FM. On vous dit à très bientôt et d'ici là, on vous souhaite de profiter pleinement des activités culturelles de notre beau territoire.